Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Quelle que soit la question relationnelle qui se pose, un conseiller conjugal et familial est un professionnel formé à accompagner la réflexion de ceux, hommes, femmes et même enfants, qui en ont besoin. Certaines étapes de la vie sont plus difficiles à franchir que d'autres par les ajustements qu'elles demandent. Dans ces temps de crise qui viennent bousculer, voire effondrer tout ce qui a pu se construire, où la violence, le conflit, la colère, la douleur ou l'impossibilité de communiquer submergent les personnes, le conseiller conjugal et familial est là pour accompagner. Dans nos studios aujourd'hui, Cécile Fleury vient justement nous parler de cette expérience et ce métier de conseillère conjugale et familiale, car elle exerce en ce moment sur CUSI. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Sur le métier de conseillère conjugale et familiale, qu'est-ce que vous pourriez rajouter à cette introduction ?
Alors, le mot conseil conjugal est vraiment... le mot conseil est plutôt un mot qui est faux parce que, au final, je ne conseille que très très peu. J'accompagne les gens en les écoutant, en leur permettant de réfléchir à ce qu'ils sont en train de vivre, en mettant des mots. Bien évidemment, je ne fais pas que écouter, hein, je fais aussi, je reprends des choses, je reformule ce que les gens sont en train de me dire, et petit à petit ils vont cheminer, faire des choix, se rendre compte qu'il y a des choses inconscientes qui ont guidé leur vie jusque là et pouvoir mettre des mots dessus et avoir une autre action, et du coup faire vraiment des choix.
Et quelle est la différence avec une psychanalyse ou j'imagine qu'on vous pose régulièrement cette question,
oui.
Je vous vois sourire.
Alors, d'abord, la psychanalyse, c'est un outil. Alors, moi, j'ai quelques bases de psychanalyse. J'ai surtout d'autres formations autour de l'attachement, une formation en systémie par rapport, du coup, à tout ce qui régule une famille. Et un couple est aussi un système. Mais la grande différence entre une, du coup, thérapie et le conseil conjugal, la conseillère conjugale, elle va essentiellement parler des liens entre les gens, des liens dans le couple, des liens dans la famille, des liens dans la fratrie. Et elle ne va pas s'intéresser spécialement au passé des personnes. Alors, en disant ça, c'est un petit peu faux, parce que l'idée quand même, c'est de se dire que le passé des personnes est intéressant, mais pas leur passé pour être curieuse, le passé pour connaître comment... leurs liens, ils ont construit leurs liens avec leur famille, avec leurs parents, parce qu'en fait, on n'arrive pas comme ça, en génération spontanée, on est avec la valise, entre guillemets, de nos parents, de nos ancêtres, de nos ascendants. Valise qui parfois nous embarrasse un petit peu. Donc, voilà. Mais en plus, le conseil conjugal, c'est plutôt court. C'est plutôt des accompagnements qui durent moins longtemps qu'une thérapie. Et puis, la différence aussi, c'est qu'on s'adresse à tout un type de... à vraiment plein de publics, hein, tout type de public. Aussi bien des couples que des personnes seules. Quand on entend conseil conjugal, on entend toujours des couples en crise. Moi, j'accompagne aussi des hommes ou des femmes. Là, en ce moment, j'accompagne un papa qui vient de se séparer avec... voilà, pour qui c'est très, très douloureux. Donc, des personnes seules aussi qui peuvent... voilà, qui se questionnent, qui veulent essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi cette énième rupture et comment, du coup... être mieux peut-être dans leur relation future.
D'accord. Et sinon, lorsque vous êtes en face à des couples, vous les recevez ensemble ?
Oui, quand c'est un couple qui vient, par exemple, un couple qui vient parce que... Alors, je pense à un couple en particulier que j'ai accompagné sur 6 ou 7 séances. Monsieur avait été infidèle parce que, voilà, une famille où il y avait donc un couple avec 3 enfants, des enfants très rapprochés, avec du coup la sphère de la conjugalité, de la sexualité qui n'était plus du tout investie. Et monsieur avait donc une maîtresse. Et ça avait duré pas mal de mois, cette histoire-là. Et madame avait été très blessée. Mais leur envie, c'était de dépasser cette crise-là, d'essayer de se pardonner l'un l'autre et puis de continuer à avancer. Donc là, oui, je recevais les deux membres du couple ensemble, bien sûr.
Et c'est à ce moment-là, vous allez utiliser des outils. Enfin, j'imagine que ça ne doit pas être du tout pour éviter des débordements émotionnels ou pour éviter des conflits ouverts devant vous. Vous avez
formé
pour ça ou...
Il y a des conflits ouverts des fois devant moi. Je les laisse faire d'ailleurs, les conflits, les débordements émotionnels aussi, parce que c'est difficile de venir parler de sa souffrance sans pleurer. Donc oui, je dis souvent, il y a toujours des mouchoirs dans mon bureau, et je dis qu'on peut pleurer parce qu'on vit des choses difficiles. La seule chose qui n'est pas possible, ni dans mon bureau ni en conseil conjugal, c'est la violence. C'est-à-dire qu'une femme qui serait victime de violence conjugale, je ne recevrai pas le couple. J'ai accompagné des femmes victimes de violence, mais je les accompagne seules. La violence, le conflit et la violence, c'est deux choses différentes. Hein. La violence, c'est le fait de complètement nier l'autre, d'avoir envie de le détruire, et voilà, d'utiliser les coups, mais aussi les insultes. Voilà, hein, la violence conjugale, c'est quelque chose qui est très particulier. Le conflit, c'est autre chose. Hein. Le conflit, c'est quand on se dispute à deux, en fait, hein, quand on n'arrive pas à se comprendre à deux. Donc oui, il m'est arrivé, je me rappelle très bien, d'un couple où je les regardais, en fait, se disputer devant moi. Et du coup, il y a toujours un moment où ils s'arrêtent parce que ils sont un petit peu embêtés, du coup ils s'excusent. J'ai dit non, mais voilà, je vois juste que à la maison ça doit être pire, et évidemment c'est forcément pire à la maison que dans le cabinet. Mais voilà. Mais après, des outils, j'utilise beaucoup la carte familiale. Donc je fais faire aux personnes, je fais avec eux leur arbre généalogique pour comprendre du coup les liens, pour comprendre comment le dessus, hein, s'est construit, c'est-à-dire du coup comment le couple a investi l'enfant, enfin du coup l'adulte que j'ai aujourd'hui en face de lui. Comment les liens se tissent dans la famille? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce qu'il y a eu de la violence au-dessus? Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant de le faire avec les personnes.
Ah oui, vous allez vraiment toucher l'intimité de vie de ces personnes-là, au-delà du simple conflit qui vient les réunir devant votre bureau.
En fonction du contexte, oui. J'ai besoin, en fait, de comprendre quelles sont leurs valeurs propres. L'idée, c'est que la solution, c'est eux qui vont la trouver, c'est pas moi. Moi, j'ai mes valeurs dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, mais les valeurs des gens ne sont pas les miennes. Et l'idée, c'est que ils puissent, eux, mettre à jour leurs valeurs. Parfois, c'est pas si conscientisé que ça. Comment ils ont été élevés, c'était quoi leurs valeurs, quelles sont les valeurs importantes que leurs parents leur ont données, et comment, du coup, ces valeurs, parfois, la valeur de monsieur n'est pas forcément la valeur de madame. Alors, jusqu'au conflit, ça posait pas de problème, tout le monde arrivait à composer avec ça. Sauf que quand il y a un conflit, du coup, c'est ça qui explose. Donc oui, c'est important de questionner ces choses-là. Alors après, ça n'arrive pas forcément au premier rendez-vous. Puis j'explique pourquoi. J'explique pourquoi je vais effectivement un petit peu interroger qui ils sont au-delà du conflit de couple.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
Retour avec Cécile Fleury, conseillère conjugale et familiale. Donc un conseiller ne s'intéresse pas que à cette partie conflit de couple qui vient chercher des solutions à travers votre consultation.
Non. Alors le conseiller conjugal et familial, il est d'abord on est formé, hein, c'est une formation qui se fait dans différents associations, et puis moi je l'ai fait donc à la fac de Lyon. C'est une formation qui est aussi axée sur tout ce qui est la vie sexuelle et affective, donc de manière large, puisque dans le couple, il s'agit de vie affective et sexuelle, bien évidemment. Et de manière large, il y a aussi tout ce qui est l'éducation affective et sexuelle des adolescents. Des jeunes femmes. Donc moi, je travaille à temps partiel dans un centre de planification et d'éducation familiale en Haute-Savoie. Et là, j'ai différentes casquettes, le conseil conjugal et familial, l'éducation affective et sexuelle des adolescents, et puis tout ce qui est autour de l'accompagnement à l'IVG. Donc là aussi, on parle effectivement de vie sexuelle et affective et de pourquoi des femmes, des couples décident d'interrompre leur grossesse.
D'accord. La formation que vous parliez à Lyon, c'est quoi exactement comme type de formation ?
Alors c'est une formation qui est sur 2 ans, qui alterne des cours pratiques, des cours théoriques et puis des stages. Il faut des prérequis. Les prérequis, alors dans la formation, il y avait beaucoup déjà de personnes. Moi, j'étais éducatrice spécialisée pendant très longtemps avant de me convertir. Et il y avait des assistantes sociales, des sages-femmes, des psychologues aussi. Donc c'est une formation, il faut déjà avoir quelques prérequis. Dans la formation en elle-même, on va avoir beaucoup d'éléments autour de comment un couple se forme, qu'est-ce que la sexualité dans un couple, qu'est-ce que la sexualité dans la vie tout court. On a aussi des notions de droit, puisqu'on agit dans un certain cadre. Hein, quand on parle d'IVG, on ne fait pas n'importe quoi, on est dans un cadre légal très strict. Et comme on parle aussi de famille, eh bien on a aussi abordé ce qui était la maltraitance et les violences conjugales.
Donc vous faites des permanences dans ces centres de prévention ? Vous êtes
oui, exactement.
Qui est financé par un organisme public.
Oui, alors c'est financé. Les centres de planification sont financés par les départements. C'est une obligation de chaque département. Alors en Savoie, c'est le conseil départemental qui gère ces centres de planification. Les personnes qui travaillent au sein du conseil départemental. En Haute-Savoie, il y a une délégation auprès des hôpitaux. Donc on travaille dans les hôpitaux. C'est une obligation du conseil départemental pour permettre l'accès à la contraception aussi à tout le monde, aux mineurs bien évidemment, et puis aux femmes démunies.
Et vous vous retrouvez donc à effectivement accompagner ces jeunes ados, ces femmes démunies autour de tout ce qui est prévention, enfin contraception.
Exactement. La contraception, mais aussi tout ce qui est lié à la vie relationnelle et affective, au consentement, aux prises de risque par rapport au dépistage des IST. Donc voilà, avec tous les mercredis après-midi, je suis en permanence à la maison des adolescents donc d'Annemasse, où les jeunes viennent spontanément, soit pour renouveler leur contraception qui est alors gratuite, et donc là ils rencontrent la sage-femme, mais aussi pour parler de leur mal-être, de leur bien-être, de leurs déboires amoureux et de leurs déboires familiaux parfois aussi.
D'accord. Ça doit être assez riche en termes d'échanges comme ça avec ces jeunes ados ou avec des jeunes adultes. Comment vivez-vous cette implication-là ? Ça doit être un peu des fois compliqué, j'imagine, en termes d'intimité que vous allez partager lors d'une consultation, et puis après vous allez laisser la personne repartir avec peut-être ses souffrances.
Oui, alors ça me fait vraiment écho. Alors, effectivement, c'est un métier très riche, ça, c'est sûr, très riche, très varié, avec, je rencontre un public extrêmement large, hein, depuis l'adolescente de 15 ans ou pas, ou à peine, jusqu'à la femme de 40, 50. J'ai même suivi un couple qui avait 60 ans, 42 ans de mariage, et le confinement avait vraiment été très, très compliqué pour eux. Et parfois, effectivement, je reçois des jeunes ou des adultes hein, qui vont pas bien. L'idée, c'est quand même toujours de, à minima, de ne pas les laisser repartir aussi mal que quand ils sont arrivés, de pouvoir d'abord les avoir écoutés. Parfois, ça permet aussi qu'ils aillent mieux. Je leur demande toujours comment ils vont quand ils repartent. Et puis, je pense à une adolescente qui est venue un jour en me disant, j'ai besoin de vider mon sac. Alors, elle venait clairement pas du tout pour de la contraception. Elle était vraiment venue pour vider vider son sac par rapport à des relations familiales, bon, une histoire avec un chéri, mais surtout, surtout dans ses relations familiales, et où je me suis très très vite rendu compte qu'en fait, moi, j'allais pas pouvoir l'aider parce que sa souffrance était beaucoup trop importante, et où je l'ai écouté à un moment, et puis je lui ai très vite dit que j'allais l'orienter vers une psychologue en lui donnant, voilà, des coordonnées de collègues, mais voilà, l'idée c'était de doser entre tout ce qu'elle allait pouvoir me dire, ne pas qu'elle m'en dise trop, parce que du coup, j'allais pas forcément pouvoir rebondir. Et en tout cas, j'allais pas entamer avec elle une relation trop poussée pour que voilà, ça soit trop difficile. C'est une espèce de dosage, en fait. Mmh. C'est un petit peu au jugé, un peu au feeling que les choses se font.
Oui, c'est ça. De ce que j'entends dans votre métier, vous êtes un peu une sorte de passerelle où vous allez pouvoir après réorienter les personnes en fonction de leur état d'être. Parce que pareil, j'avais cette question par rapport au couple. Quelle est votre relation par rapport à des avocats, par exemple, ou des juges? Parce que peut-être que des moments donnés, des familles ou des couples viennent vous voir en cherchant des solutions, et jusqu'où votre périmètre s'arrête dans la recherche de solutions, et jusqu'où vous allez passer la main j'imagine à des avocats ou des psychologues.
Tout à fait. Alors après, effectivement, ce qui est important, c'est de, alors d'abord, de pas rester seul. Alors surtout qu'en libéral, du coup, on est seul déjà. Alors au CPEF, je ne le suis pas, mais en tout cas en libéral, je suis seule. L'idée, c'est d'avoir du réseau et de bien repérer et connaître ses limites. Vous parlez de l'avocat. Là, l'autre jour, j'ai accompagné sur 2 ou 3 rendez-vous un papa en grande difficulté avec sa compagne, où il imaginait se séparer, sauf que voilà, il avait un petit peu peur de savoir les démarches qu'il fallait entamer. Par là-dessus, il y avait une information préoccupante de la protection de l'enfance. Donc, il mélangeait un petit peu tous les ressorts des juges. Alors, voilà, moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, comme j'ai travaillé très longtemps à la protection de l'enfance, dans ma tête, les schémas judiciaires, voilà, je les ai très clairement. Et j'ai pu effectivement accompagner. Mais après, il m'arrive d'orienter vers des psychologues parce que je pense que la personne, elle a vraiment besoin de ça. Mais aussi vers des techniques un petit peu parallèles, entre guillemets. Par exemple, à l'hôpital, comme je suis rattachée à la maternité, j'accompagne aussi des mamans, enfin des futures mamans, des femmes qui sont enceintes avec des grossesses qui ne se passent pas forcément bien, avec des femmes qui sont alitées à l'hôpital, par exemple, que du coup, je rencontre, que je vais voir. Et parfois, je les oriente aussi sur voilà, de la réflexologie, sur des praticiens un petit peu à côté. Donc, j'essaie de me construire tout un réseau relationnel aussi, hein, de personnes qui peuvent accompagner différemment, pas oui. forcément par les mots, parce que moi, mon outil principal, c'est les mots. Oui. Et il y a des personnes pour qui les mots, eh bien, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de parler, c'est pas facile de parler de soi. Ou ça sera peut-être facile, mais peut-être qu'il y a des blocages avant. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps d'essayer de me créer un réseau de professionnels qui peuvent accompagner des gens qui souffrent autrement. Parce que je suis intimement convaincue que... c'est en accompagnant de manière différenciée et en étant vraiment dans ce qui nous convient le mieux qu'on peut aller bien. Parce que, voilà, aller chez une psychologue alors qu'on n'est pas à l'aise avec les mots, que ça paraît très très compliqué de brasser des choses un peu compliquées du passé et qu'il y a des blocages, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de le faire. Mmh. Et vice-versa, hein, il y a des personnes, je me rappelle, il y a une femme que j'accompagne depuis pas mal de semaines déjà, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle ne sentait pas ses émotions, que elle s'était très bloquée dans son corps, et où je m'étais dit, ben voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait aller vers des thérapies plus manuelles. Et je l'ai évoqué avec elle. Et en fait, sa réponse a été claire, c'est impossible pour elle d'être touchée. Donc voilà, j'ai respecté ça. Et du coup, voilà, on a continué de bonhomme de chemin avec les mots, avec ce qui finalement lui est possible et familier.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en rire. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
parce que en termes de fréquence, c'est comment ça se passe en général? Est-ce que vous allez les voir très régulièrement, très souvent? Est-ce que c'est plutôt un accompagnement sur du long terme, régulièrement espacé, pour voir un peu quelles solutions, les solutions qui ont été mises en place fonctionnent ou pas? Comment ça se passe?
Alors, c'est tout est personnalisé, hein. Voilà, il y a pas de règles. Moi, j'aime bien au début de l'accompagnement, quand les gens, je les connais pas, que les rendez-vous, au moins les deux, trois premiers, soient rapprochés à une semaine. Ça permet de pas perdre le fil parce qu'au début, on me donne beaucoup d'informations. Les gens racontent beaucoup. L'autre jour, il y a un monsieur une séance, ça dure une heure. Pendant 50 minutes, il a à parler. Parler, raconter. Et en fait, je suis une grande bavarde, hein, mais j'arrivais pas du tout à l'interrompre. C'était impossible, et j'avais l'impression que ça se passait sur Skype, cette consultation-là. J'expliquerai après, du coup, comment je travaille. J'avais l'impression qu'il lisait quelque chose, qu'il s'était mis des points pour pouvoir me raconter tout ce qui était important. Du coup, la consultation a un peu débordé, parce qu'au bout de 50 minutes, normalement, ça aurait dû s'arrêter une minute après, mais je me sentais pas l'abandonner comme ça, parce que quand même, il avait balancé beaucoup de choses. Donc voilà. Donc au début, j'aime bien que les rendez-vous soient... Ça fait partie du cadre aussi que j'explique aux gens, en disant, voilà, d'abord, je leur dis aussi que c'est important peut-être qu'on essaye au moins de se rencontrer deux fois, et puis qu'après ils ont le choix de continuer le travail avec moi ou pas, parce que je peux aussi avoir une approche, ils peuvent ne pas avoir envie de travailler avec moi, tout à fait. Moi, je peux aussi dire mes limites, hein, si du coup ça me semble pas du tout correspondre à mon champ de potentiel. Donc voilà, j'introduis toujours un petit peu les choses en me disant, on se donne au moins deux rendez-vous, puis après on se dit les choses, on n'est pas lié par rien du tout. Après, les rendez-vous, alors c'est un petit peu à la demande de la personne aussi. Quand la séance est finie, je dis bon, alors on reprend rendez-vous quand? Il y a des gens qui disent tout de suite la semaine prochaine. Donc ça, c'est des gens qui ont vraiment besoin, hein, d'évacuer, beaucoup besoin de parler. Et puis petit à petit, on espace quand même. L'idée, c'est que normalement on est sur un rendez-vous tous les 15 jours. D'abord parce qu'il faut aussi que ce qui était parlé en séance, alors surtout dans un conflit conjugal où l'idée, c'est quand même que ce que chacun a dit, ça puisse être mis en application à la maison, hein. Alors, je ne donne pas vraiment des petits exercices, mais parfois, j'invite à essayer un peu différemment. Donc, l'idée, c'est quand même qu'ils puissent un peu tester, parce qu'autrement, ça n'a pas grand sens. Donc, après, on espace un petit peu. Et puis, parfois, on va espacer plus. Puis, parfois, on va revenir à la semaine d'après, parce qu'il y a eu une grosse crise, parce qu'il y a eu... Donc, je fais vraiment un petit peu à la demande. Et ça, que ce soit en libéral ou que ce soit au centre de planification, je suis vraiment plutôt dans comment les... Vraiment, les gens, je leur dis souvent, vous avez les rênes. C'est vous qui avez les rênes. L'idée, c'est que vous allez faire des choix pour votre vie et vous avez aussi les rênes de ce qui se passe là, à l'intérieur de l'entretien. En tout cas, au moins pour la prise de rendez-vous.
D'accord. Mais vous arrive-t-il de conseiller qu'une séparation semble être la chose la plus évidente qu'ils doivent mettre? Ou est-ce que vous attendez à ce qu'ils cherchent les solutions eux-mêmes et,
Il ne m'est jamais arrivé de conseiller qu'une séparation était la meilleure solution. Les gens la trouvent de même, cette solution-là. Oui. C'est-à-dire que du coup, si au bout de... je pense à un couple en particulier, le monsieur là que j'accompagne tout seul, c'est des gens que j'ai accompagnés sur 5 ou 6 séances en couple. Et puis, ils ne m'ont plus donné de nouvelles. Et là, monsieur m'a rappelé là, cet automne en me disant, on s'est séparés au mois de juillet, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, je vais très très mal. Ils en sont arrivés là. Moi, je ne savais pas quelle décision ils allaient prendre. Et puis, non, je ne me permettrai pas de dire. Voilà. Non, par contre, ce que je dis, c'est que le conseil conjugal, et ça, du coup, c'est un message important, on peut se dire qu'on n'est pas là forcément pour rabibocher le couple. Il y a un jeune couple qui est venu me voir 3 fois simplement, parce qu'ils voulaient être sûrs que c'était la bonne décision qu'ils prenaient par rapport à... C'était douloureux. Et puis surtout, ils avaient besoin de savoir comment ils allaient expliquer ça à leur petite fille, qui était toute petite, qui n'avait pas 2 ans. Donc voilà. Du coup, c'est des gens qui ont pu se séparer assez tranquillement, dans l'intérêt de leur petite fille aussi. Donc voilà. Le conseiller conjugal, c'est pas une fée, hein. Elle n'a pas de baguette magique. Elle ne va pas ni que les gens, ni faire que le couple il va se rabibocher, ni... ça, c'est évident.
Oui, mais par contre, par l'écoute, et effectivement, vous pouvez vous pouvez faciliter l'aspect apaisant ou en tout cas sérénité en termes de prise de décision derrière.
Ça tout peut à être fait, quelque chose de plus. Et puis la prise de conscience. Hein. Vraiment, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a plein de choses qu'on fait de manière totalement inconsciente. Par définition, on ne le sait pas puisque c'est inconscient. Quand on vient dire des choses et qu'en plus c'est repris, réexpliqué, reformulé, c'est plus inconscient. Donc il y a un moment où le choix il se fait.
Alors après, pour continuer sur les modalités pratiques, donc Cécile Fleury, vous vous exercez sur CUSI dans le 74, mais aussi donc au centre de prévention
de planification.
Centre de planification. J'aime bien le mot prévention, mais en fait pas du tout. C'est planification.
Ça, c'est planification. C'est... Parce que c'est lié à la contraception et à la fécondité.
Oui, c'est ça. Donc, le centre de planification, qui est donc à Annemasse. Vous exercez donc, vous recevez dans votre cabinet, donc aussi éventuellement par Skype, c'est ça. Vous avez un nouvel outil qui peut.
C'est ça.
Qui marche relativement bien.
Un outil qui marche relativement bien, d'autant plus que quand on est en consultation au centre de planification, on est masqué. Donc là, en Skype, en plus, on n'est pas masqué. Ah, donc, du coup, il y a quand même beaucoup de non-verbal qui passe plus facilement. Les consultations par Skype, ça permet aussi à des gens. Qui ne peuvent pas forcément se déplacer, d'avoir quand même accès à des consultations, des gens qui sont éloignés aussi, hein, parce que voilà, la Haute-Savoie et la Savoie, j'ai aussi fait un suivi d'une jeune femme sur la Savoie. J'exerce à CUSI, oui et non, hein, c'est-à-dire que du coup, quand je suis sur Skype, évidemment, j'exerce depuis CUSI, autrement, j'occupe un cabinet en plein centre d'Annecy, où là, je peux faire des consultations en recevant les gens en visu, en présentiel.
Et donc, à quel moment les gens vont faire appel à vous ? Parce que vos tarifs sont pris en charge ou pas du tout ?
Pas du tout. Alors, il y a des mutuelles qui prennent quelques consultations en charge, enfin, en tout cas, une partie. Autrement, on est comme les psychologues. Hein. Les psychologues, pour le moment, alors, il y a le projet qui soit effectivement, qui ait des prises en charge, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, les prises en charge, c'est payant. Sauf au CPEF où c'est gratuit. Hein.
D'accord. Même pour le CPEF, par contre, ça sera que pour les femmes et pas forcément pour les couples.
Ça peut être aussi pour les couples. Ça peut être aussi pour les couples. Les couples peuvent venir consulter en conseil conjugal au CPEF aussi.
Ah d'accord.
Voilà, tout à fait. Donc en libéral, moi, mes consultations, elles sont à 50 euros quand je reçois une personne seule, 70 euros quand je reçois un couple. C'est des tarifs qui sont... Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont relativement bas, parce que pour certaines familles, je sais que ça représente une somme, mais voilà, c'est dans la moyenne et dans une moyenne plutôt basse, en tout cas pour la Haute-Savoie. Les personnes sont... soit elles entendent parler de moi. Alors, je publie beaucoup sur Facebook aussi. Donc, du coup, il y a des gens qui, comme ça, me repèrent, qui se disent, tiens, ça a l'air... peut-être que ça peut correspondre à comment je vais. Il y a des gens qui sont adressés par des médecins généralistes. Parce que le médecin généraliste, c'est celui qui va recueillir une personne qui ne va pas bien, qui vient se plaindre de son mari, de ses enfants. Je reçois aussi des gens qui viennent, pour le coup spontanément, puis je suis dans les pages jaunes, donc on me trouve comme ça, hein, parce qu'ils ont un problème de couple et qu'ils se disent qu'il faut peut-être tenter. Le métier de conseillère conjugale, il n'est pas très démocratisé encore, les gens vont peut-être plus se tourner vers le psychologue, mais voilà, c'est pas le même travail, c'est vraiment quelque chose qui est différent.
Oui, parce que vous allez regarder vraiment plus cette approche systémique,
familiale. Alors, c'est effectivement pas le même accompagnement, la conseillère conjugale et la psychologue. La frontière est quand même ténue, puisque, comme je vous l'ai dit, on est aussi sur la façon dont on a été élevé, dont on s'est construit. Quand les gens sont vraiment, vraiment dans des souffrances très, très, très fortes, peut-être que la psychologue est plus conseillée. En même temps, il y a des personnes qui préfèrent se dire qu'elles viennent voir une conseillère conjugale. Ça semble un petit peu moins connoté négativement qu'une psychologue. Et puis parfois, elles pourront aller après chez une psychologue. Donc voilà, moi, je me ferme pas cette porte-là non plus. Et à l'inverse, j'ai une collègue psychologue d'Annecy qui m'avait envoyé un couple parce que la dame était suivie par cette psychologue depuis plusieurs années. Et en fait, les problèmes de couple devenaient tellement, tellement... envahissant dans l'espace thérapeutique de cette femme, qu'elle m'avait dit, mais il faudrait peut-être aller prendre quelques consultations avec la conseillère conjugale. Bon, mais c'est sûr que la frontière est ténue.
Oui.
J'aime assez l'idée d'accompagner et du coup de cheminer avec les gens, hein, sur un chemin où je marche à côté. Les gens ils marchent, mais moi je marche aussi à côté d'eux.
Mmh. Merci Cécile Fleury de ces explications. Alors, on peut vous retrouver sur... vous avez un site internet ?
Oui, un site internet, Cécile Fleury Conseil Conjugal, tout attaché.
Voilà, ou sinon vous êtes donc au CPEF d'Annemasse. Et vous
avez les pages
voilà, page jaune et puis page Facebook, donc voilà. Cécile Fleury.
Exactement.
Merci.
Merci beaucoup.
Les Racines du Futur. Une émission pour écouter les Vosges.